Ici gît un homme qui a beaucoup essayé et peu réussi. Épitaphe de Joseph II sur sa tombe dans la crypte des Capucins à Vienne.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Au cours du XVIIIe siècle, il y a des monarchies qui ont mérité cette drôle d'appellation de despotisme éclairé. C'est-à-dire à la fois un régime d'autorité, mais réformateur. Parmi ces despotes éclairés du XVIIIe siècle, on cite volontiers Frédéric II de Prusse, Catherine de Russie, Charles III d'Espagne, Léopold de Toscane, mais il y a également l'empereur d'Autriche, Joseph II. Celui-ci est né le 13 mars 1741. Il est le fils de l'impératrice Marie-Thérèse et de l'empereur François de Habsbourg-Lorraine. Il est l'héritier du trône et quand son père décède alors qu'il a 14 ans, il devient donc empereur et co-régent avec sa mère. À vrai dire, tant que la grande Marie-Thérèse est vivante, Joseph joue un rôle non pas modeste, mais un rôle second. Il laisse gouverner sa mère, qu'il respecte vraiment, mais il est indéniable que, durant les dernières années du règne de Marie-Thérèse, alors que lui-même prend finalement de l'âge, il espère rapidement régner. Finalement, il a fallu attendre le 29 novembre 1780 pour voir la vieille impératrice décédée, laissant ainsi toute la place au pouvoir à son fils Joseph. Celui-ci a déjà presque 40 ans et pour lui, il faut faire vite. Il a le sentiment que le grand empire habsbourgeois, composé d'une multitude de peuples, autrichiens, hongrois, tchèques, polonais, mais également flamands, puisque les Pays-Bas, qu'on appelle aujourd'hui Belgique, appartiennent à la couronne des Habsbourg, que donc tous ces peuples ont besoin d'être menés d'une main solide avec des réformes administratives, des réformes fiscales, des réformes militaires. D'abord, il veut se montrer, au début du règne, relativement libéral. Par exemple, en 1781, il va assouplir la censure. Il va également, et ça c'est un geste, je dirais, à remarquer dans le contexte de l'époque, il va supprimer la peine de mort en 1786. Son frère, d'ailleurs, Léopold de Toscane, fera de même dans le Grand-Duché de Toscane. Donc, vous le voyez, il veut apparaître comme un homme des Lumières, quelqu'un qui, tout en étant souverain d'une des plus grandes lignées dynastiques, est un réformateur. D'autre part, et c'est d'ailleurs tout à fait dans l'idéal de réforme que l'empereur Joseph a, il va également assouplir la corvée paysanne qui pesait sur les masses rurales de l'Empire. Donc, on le voit, c'est un réformateur pour essayer de faire évoluer les méthodes jugées trop d'anciens régimes. Mais à côté de cela, il veut également rationaliser l'administration de l'Empire. Nous l'avons souligné, l'Empire est multinational. Or, l'idée de l'empereur, c'est finalement de casser quelque peu les traditions locales, les privilèges locaux, au profit d'une grande administration qui serait elle-même assez uniforme. C'est pour cela, par exemple, qu'il va unir la chambre hongroise avec le conseil de la couronne autrichienne en 1792, qu'il va faire, cette même année, faire fusionner la chancellerie hongroise avec celle de Transylvanie. Donc, on le voit, il va essayer d'uniformiser, en rendant, par exemple, en 1784, l'allemand comme langue obligatoire dans l'administration hongroise, ce qui, évidemment, va peser lourd sur le rapport avec les peuples, car les peuples des Habsbourg avaient l'habitude de bénéficier finalement d'une relative autonomie, y compris linguistique, dans l'administration. Or, par exemple, cette décision d'imposer l'allemand comme langue obligatoire dans l'administration hongroise va peser lourd sur le mécontentement que les Hongrois vont pouvoir avoir vis-à-vis de l'empereur. De même, autre exemple, Charles Quint avait donné des constitutions au grand-duché de Milan, eh bien, au nom d'une uniformisation de l'ensemble habsbourgeois, en 1786, l'empereur Joseph va décider de supprimer cette autonomie administrative dans la Lombardie que les Habsbourg administrent. Vous l'avez compris, c'est effectivement un réformateur, mais un réformateur qui a peut-être une vision trop centralisatrice à un moment où l'Empire est fait finalement d'une multitude de peuples. Les réformes de Joseph, même d'ailleurs celles qui peuvent nous apparaître comme les plus avancées et les moins discutables, peuvent provoquer effectivement par moments des remous. Prenons par exemple la réforme qu'il décide en 1781, celle de promulguer un édit de tolérance à l'égard des protestants et des juifs de l'Empire. Ceci est finalement, a priori, une vraie décision libérale. Seulement, il y a des parties de l'Église de l'Empire, de l'Église catholique de l'Empire, qui renâclent face à cette mise quasiment à égalité des autres confessions religieuses de l'Empire. De même, nous avons souligné les réformes administratives, mais elles bousculent beaucoup d'intérêts locaux. Et l'harmonisation administrative déplaît aux notables qui avaient pris, depuis fort longtemps, l'habitude d'une certaine autonomie. Ceci explique d'ailleurs qu'il y a eu des soulèvements en Transylvanie, c'est-à-dire dans la partie roumaine de l'Empire. Ça commence également à bouger à la fin des années 80 en Hongrie. Et en 1789, qui est évidemment pour nous Français une année un peu éclipsée par les événements révolutionnaires, mais il faut savoir que le 24 octobre 1789, les Pays-Bas autrichiens, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, prennent les armes contre Joseph II pour protester contre la tentative de centralisation. Et la garnison autrichienne installée à Bruxelles doit capituler devant les insurgés le 11 décembre. Donc vous le voyez, il y a indéniablement une résistance de plus en plus grande. Qui plus est, la politique extérieure de l'empereur Joseph n'est pas couronnée de succès. Sa mère avait réussi à annexer la Galicie polonaise et elle avait donc agrandi l'Empire. Elle avait obtenu également des succès envers les Turcs. Joseph va effectivement essayer de mener une grande politique. Il va connaître des succès mitigés. Par exemple, son idée d'échanger avec la Prusse la Silésie contre la Bavière a été un échec, car Frédéric II, qui s'était emparé de la Silésie en 1741, n'avait pas l'intention de l'échanger en quoi que ce soit avec la Bavière, surtout que la dynastie bavaroise n'avait pas été mise au courant de l'éventuel échange. Du côté ottoman, qui depuis fort longtemps est l'ennemi héréditaire finalement des Habsbourg, là aussi Joseph II essaye de mener une guerre offensive pour le faire reculer dans les Balkans la puissance ottomane. Or, cette guerre qui éclate en 1788 rencontre des difficultés. Le banat de Temesvar, qui se trouve actuellement dans la République de Serbie, eh bien, est ravagé par les troupes turques, provoquant un début de panique dans les armées impériales. Joseph II, qui commence à être malade, décide finalement de revenir à Vienne, laissant le commandement des armées impériales au général Adlik. Certes, Belgrade va être prise après un mois de siège par les Autrichiens, mais c'est un empereur déçu, quelque peu amer, qui sent bien que sa grande vision réformatrice, qu'il a jugée utile pour l'Empire, est en train finalement de prendre l'eau. Il est atteint effectivement d'une maladie, peut-être une sorte de cancer de l'estomac qui évidemment l'épuise progressivement. Et il va décider, signe presque visible d'un sentiment d'échec, le 26 janvier 1790, d'abroger toutes les réformes, sauf celle qui va concerner l'abolition du servage et la tolérance religieuse. Mais en abolissant ces réformes, eh bien, l'empereur malade se rend compte que finalement son projet centralisateur n'avait pas d'écho véritablement dans l'Empire. Et il ne lui reste plus finalement qu'à mourir des suites de sa maladie. Et il va mourir à Schönbrunn le 20 février 1790. Comme il voudra qu'on le note sur son épitaphe, il avait beaucoup tenté durant une dizaine d'années de règne, mais finalement pour aboutir à assez peu de choses.